Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité. Voilà, c'est la deuxième partie de votre émission. Nous allons parler des archives en milieu universitaire avec Madame Nathalie Manyonga, qui est doyenne de la faculté de gestion à l'UBM, l'Université Bernadette Mouleka. Madame Nathalie Manyonga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Doudi.
Elle n'est pas seule dans ce studio. Nous avons l'honneur d'accueillir aussi Monsieur Yannick Chibassou, qui est informaticien à l'UBM. Bonjour, Monsieur Yannick.
Bonjour, Monsieur Doudi.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Avec nos invités, nous allons échanger autour des archives. Pourquoi il est important d'avoir des archives au sein d'un établissement universitaire. Des questions et préoccupations, appelez déjà pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Appelez-nous au 085 42 11 547. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Benjamin Moudoumbi assure la coordination et la réalisation de cette émission. Sylvain Baougueré à la mise en onde. Voilà, Esther Mamboté s'occupe des plateformes digitales de Radio Okapi au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Okapi, Metabendi Yaman.
Et oui, nous parlons à présent des archives. Les archives sont créées par des individus, des entreprises et des administrations, des fins de mémoire. On conserve les documents produits pour pouvoir se souvenir et garder une trace. Qu'elles soient publiques ou privées, les archives doivent faire l'objet d'un traitement efficace et approprié. À partir des activités de chaque jour naissent des documents. Certains n'auront qu'un intérêt éphémère, d'autres devront être conservés au moins quelques années, tandis que d'autres, c'est toute la vie. Alors cependant, la mauvaise conservation des archives en milieu universitaire est un problème récurrent. Elle se manifeste par des conditions matérielles précaires, un manque de personnel qualifié et une gestion déficiente. Les documents sont souvent stockés dans des locaux sombres, humides, exposés parfois aux intempéries et aux rongeurs qui les attaquent, entraînant ainsi des moisissures, des déchirures et cela fragilise les papiers. Alors, par ailleurs, les archives sont parfois jetées en vrac, rendant la recherche d'informations difficile, voire même impossible. Alors, quelle est l'importance des archives en milieu universitaire? Comment améliorer les conditions des stockages et moderniser la gestion des archives? On en parle aujourd'hui. Madame Nathalie Manyonga est doyenne de la faculté des gestions à l'Université Bernadette Mouleka, qui est une université en ligne, essentiellement en ligne. Ravie de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons des archives. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par archives et quelle est l'importance des archives?
Merci beaucoup, M. Doudi. Moi-même, je suis ravie aussi. Je pense que c'est la deuxième fois que je me retrouve avec vous ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Bon, pour répondre à la question, je vais commencer d'abord par vous dire que l'université elle-même est une source de production. Donc, l'université, par elle-même, elle produit des documents administratifs. Par exemple, commençons par les inscriptions des étudiants. Vous avez déjà des listes des inscrits, vous avez déjà des rapports de réunions. Tout ça, ce sont des documents que l'université par elle-même produit. Donc, parler d'archives, je peux dire dans des mots très simples, c'est une une information produite, conservée pour une utilisation future. Donc, sans archives aujourd'hui, il est difficile de se rappeler même, bon, par exemple, même une émission que nous passons aujourd'hui.
Oui.
Déjà, quand on arrive demain, ça devient une archive. Parce que les gens qui veulent avoir des informations, qui se souviennent que tel jour, il y a une telle émission, M. Dodi a reçu telle personne, qui veut avoir des informations sur ça, il va recourir aux archives.
Aux archives, voilà.
Voilà
telle
pourquoi.
Telle date, telle heure,
il y a eu une telle émission. Donc, c'est pour dire qu'une archive, c'est une information qui doit être conservée. Alors, mieux conservé pour une utilisation future.
Donc, dans une université, on produit pas mal de documents. Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai parlé d'abord de l'université. Nous avons l'administration d'abord. À côté de cela, nous avons les professeurs qui produisent aussi. Parce que les professeurs écrivent chaque jour des articles. Ils produisent des articles scientifiques. Ils écrivent des livres. Il y a des étudiants qui écrivent des mémoires, des licences. Il y a des étudiants qui écrivent des mémoires de DA, diplôme d'études approfondies, il y a des thèses, il y a des rapports de journées scientifiques, des matinées scientifiques, tout ça ce sont des documents produits par une université qui doivent être conservés.
Alors, j'imagine en une année scolaire, une année académique, l'université produit des milliers de documents.
Je te dis, des milliers de documents. Alors, vraiment, c'est comme vous avez dit, c'est la vie de tous les jours. Parler des archives, vraiment, c'est chaque jour, on écrit, on présente des séminaires, on présente des mémoires, des thèses, tout ça, ça entre dans les archives. Les livres, n'en parlons même pas. Donc, tout ça, ça entre dans
Mais
les archives.
Mais archiver tout cela, c'est beaucoup de documents.
Voilà. C'est beaucoup de documents. C'est pour cela il faut une meilleure conservation. Et je pense qu'on va en parler. C'est quoi la meilleure conservation? Oui, je pense que...
Monsieur Yannick Tchibas, vous êtes informaticien. On voit souvent, quand on va dans nos universités, dans les archives, on a archivé trop de paperasses. Les papiers ont même changé de couleur. Il y a des rongeurs qui ont déjà bouffé une bonne partie, tout ça. Quelle est la meilleure conservation ou stockage des archives? La meilleure façon, je voulais dire.
Bon, merci pour la parole, Monsieur Jody. Je dirais que la meilleure façon de stocker les archives, c'est numériser ça, c'est informatiser les archives. Parce que en informatisant les archives, on est sûr qu'on ne peut pas perdre l'information. On est sûr qu'on peut les retrouver à n'importe quel moment quand on a besoin de ça. Et on est sûr que ça ne sera pas délimité géographiquement. Parce qu'une archive qui est stockée, par exemple, dans un bureau, c'est difficile à une personne qui est, par exemple, à Bukavu, d'avoir accès à ce document-là.
Oui.
Il en a besoin tout de suite là. Mais si on informatise ça, c'est facile à une personne qui est même ailleurs d'avoir accès à ces documents. Donc je pense que la meilleure façon de numériser ça, c'est informatiser ou numériser les archives. C'est plus sûr
qu'archiver
dans un bureau où ça peut brûler.
Ça peut brûler, il peut pleuvoir, et puis l'eau va détruire les documents, ça. Oui, mais... Bon, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à utiliser les anciennes méthodes. La paperasse, on classe les papiers, tout ça. Parfois, pour retrouver une information, ça devient compliqué.
Voilà, c'est pourquoi on dit qu'il faut bien gérer, avoir une stratégie de gestion ou une administration de gestion des archives. Alors, c'est de ce côté-là que l'informatique est importante parce qu'avec l'informatique, on sait bien gérer. On a un plan de classification, un plan de classement facile à trouver, facile à gérer par rapport à des archives qu'on gère dans nos bureaux ou dans des bibliothèques.
Mais l'informatique n'offre pas de sécurité aussi parce qu'on peut perdre une clé USB, on peut perdre... Vous avez gardé vos données dans un box, puis ça peut se perdre, tout comme ça peut s'abîmer.
Oui, bien sûr, évidemment. On peut perdre l'ordinateur ou on peut voler ça.
On peut voler.
Raison pour laquelle l'université Bendet Moulika à son dépôt institutionnel qui est exclusivement en ligne et qui est accessible à la communauté IBM. Donc on est sûr qu'avec ces dépôts-là, toutes les archives qu'on produit chaque jour à l'université est bien stockée et on est sûr qu'on ne peut pas perdre ça.
Voilà. En parlant de ces dépôts numériques, Madame Nathalie Manyonga, pouvez-vous nous en dire un peu plus, c'est quoi ces dépôts numériques et comment ça fonctionne?
Ok, merci beaucoup pour la question. Les dépôts numériques créés par l'Université Bernadette Moulika, s'appelle LIRE en sigle.
LIRE.
LIRE.
L-I-R-E.
L-I-R-E, qui veut dire libre inventaire de la recherche et de l'excellence. C'est quoi le libre inventaire? C'est-à-dire que nous donnons d'abord un accès libre aux documents produits par l'ensemble de l'UBM, c'est-à-dire commençant par les professeurs, les chercheurs et les étudiants. Donc l'université inventorie tous les documents produits par l'UBM et les met à un libre accès, à, bien sûr, aux travailleurs, aux étudiants de l'UBM. Donc là, vous êtes quand même en sécurité. Et puis, les documents publiés, c'est difficile que ça puisse connaître du plagiarisme, par exemple. Un document qui est déjà déposé sur la base de données LIRE. Lorsqu'un autre document vient, il y a des outils utilisés par l'intelligence artificielle qui vont faire la vérification pour voir est-ce que ce n'est pas un article déjà produit dans notre base de données. Voyez un peu, ça nous aide. Et puis, avant même la publication, on a la facilité de lire, de voir ce que les autres avaient déjà fait avant que vous puissiez déposer le vôtre. C'est pour cela que cette base de données-là vient encore de donner beaucoup de sécurité à l'université. Pour le moment, c'est encore restreint à l'université, mais je pense que à la longue, on pourra voir comment faciliter aussi les autres. Je pense que ce sera une innovation pour la République démocratique du Congo. Avoir des archives en ligne, avoir une base de données qui vous aide à archiver en ligne, je pense que ça sera pour la première fois. Et ça pourra aider pour une bonne conservation de nos publications.
Donc comme l'université Bernadette Moulika est essentiellement en ligne, donc tous les documents peuvent être digitalisés.
Oui, tout.
Tout.
Alors tout.
Alors oui, alors ces logiciels-là à quelle capacité peut garder, conserver combien de documents pour combien de temps?
Je pense, Monsieur Yannick, en dire plus parce que ça c'est l'informatique.
On a beaucoup de capacités, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. En tout cas, beaucoup de capacités. Et puis, je peux vous assurer, même pendant 5 ans, on peut toujours stocker des documents. Donc, de ce côté-là, vous inquiétez pas.
Et quel type de documents peuvent être archivés? Est-ce qu'on doit tout archiver? Parce qu'il y a des documents qu'on peut garder, d'autres qu'on peut jeter.
Bon, on peut garder, il y a plusieurs documents qu'on peut garder. Il y a, par exemple, des travaux, par exemple, des rapports de stage, il y a des livres, il y a
des mémoires,
DFC, tout ça. Ce sont des types d'archivage qu'on stocke.
Est-ce qu'on peut aussi garder les copies des interrogations, des TP, parce que parfois l'étudiant vient, il y a eu perte des cotes, on ne retrouve pas la copie de tel ou tel autre étudiant. Est-ce que ça peut aider aussi à résoudre ce problème?
Si, pourquoi pas. Parce qu'il y a des étudiants qui viennent réclamer et vous devez avoir la preuve. Donc, si c'est déjà numérisé, et puis quelque chose qui est déjà numérisé, ça gagne aussi de l'espace. Imaginez-vous dans nos bureaux, on a des tas de documents, des tas de papiers. Vous-même, vous avez dit, des fois, ça se détériore, ça perd même des couleurs.
Oui.
Alors, numériser les copies de l'interrogation. D'ailleurs, vous savez déjà que nous sommes une université en ligne. Déjà, tant que vous faites l'interrogation, ça sera en ligne. Vous allez envoyer vos copies en ligne et tout est déjà classé et numérisé. Donc, c'est facile que quand tu viens, je donne un exemple, le nom d'un étudiant, Moulika.
Oui.
J'insère le nom de Moulika et on me donne toutes les informations sur Moulika. La date qu'il a passé son premier TP, la date qu'il a passé son interrogation, la date qu'il a passé son examen et ses copies. Donc, ça sera comme ça, chaque étudiant doit avoir un compte chez nous. Donc tu as un compte d'où, et puis toi-même tu sais même déjà t'évaluer par rapport, parce qu'on va mettre à la disposition les résultats des étudiants. C'est comme à l'université aujourd'hui, avant qu'un étudiant passe des examens, il doit savoir combien il a fait dans les travaux pratiques pour pouvoir se préparer bien aux examens. Donc c'est comme ça. Numériser, ça ne sera pas un problème pour nous, parce que ce sera notre vie quotidienne.
Et quels sont les avantages que la numérisation offre, Monsieur Yannick? Je sais que vous en avez parlé, mais il y en a plusieurs, je suppose.
Alors, dans lire, l'avantage qu'on a déjà de numériser là-bas, c'est que, par exemple, comme un étudiant qui numérise son travail, avec lire, on a la possibilité de rendre ce travail-là accessible à tous. Par exemple, il y a un étudiant qui est à Bukavu qui fait une recherche sur une maladie, je ne sais pas quelle maladie, mais il y a un étudiant à l'UBM qui a fait aussi cette recherche-là par rapport à cette maladie-là, mais qui on a mis ce travail-là dans lire. Ça permet à ce que l'autre étudiant-là qui est là-bas peut se référer à ce travail-là pour trouver aussi la solution. Donc ça permet à ce que, ce qu'on fait avec lire, on permet à ce que nos chercheurs de la RDC puissent être visibles dans le monde entier. Donc on peut les retrouver à partir de ces travaux-là qu'ils ont fait, à partir de lire.
Bien. Il y a une question. Quelqu'un nous dit, bon, l'archivage numérique n'est pas seulement c'est pas seulement nécessaire dans nos universités, même dans nos hôpitaux. Quand vous allez pour retrouver la fiche d'un malade, tout ça, il faut commencer à chercher. Ça prend beaucoup de temps, ça ralentit l'opération. Voilà la réaction d'un auditeur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Madame Anyonga?
Bon, il n'a pas tort. Même dans nos hôpitaux, je pense qu'il y a quelques hôpitaux qui utilisent déjà les numériques. Par exemple, je peux donner l'exemple de l'hôpital Monkoli. Quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'avoir des fiches physiques avec vous. Dès que vous dites que je viens pour tel service, directement, vous insérez le nom. On envoie la fiche électronique au médecin concerné. Et ça vous facilite aussi la tâche. Ça vous permet aussi de gagner en temps. Vous voyez, il y a des hôpitaux, vous pouvez arriver là, juste pour le triage de fiches, on peut vous prendre 2 heures du temps.
Seulement pour les triages?
Les triages seulement. C'est-à-dire, on doit d'abord, vous devez donner votre numéro, et quand vous avez écrit sur un petit bout de papier comme ça, si vous le perdez, donc
c'est fini, il faut
acheter une autre fiche. Donc vous arrivez, vous devez donner ce bout de papier là, on va commencer à chercher votre fiche, et puis en fait après envoyer, on doit vous prendre des signes vitaux, et puis ainsi de suite. La fiche doit circuler entre les mains des infirmiers. Je pense qu'il n'a pas tort. Ce n'est pas seulement dans les universités, même dans les hôpitaux, même dans les écoles.
Voilà.
Même dans les écoles. Voilà qu'il y a des aujourd'hui, nos élèves produisent aussi beaucoup de travaux qui peuvent aussi aider les autres, mais ça s'enclave dans les bureaux du directeur, les cahiers de devoirs à la fin de la journée, plier les cahiers de devoirs,
aller déposer
chez les directeurs. Et ça reste comme ça, ça moisit comme ça et c'est tout. Je vous donne l'exemple de moi qui vous parle. Je suis en train de faire la thèse, mais mon travail de DA, si aujourd'hui là, chercher à avoir l'information sur ce que je produis en DA, je ne sais pas si je peux trouver ça en ligne. C'est resté seulement le jour de la défense, là, j'ai les membres du jury qui étaient là, l'audience qui a eu la chance de participer à la défense, et ça s'arrête là. C'est archivé où ? Peut-être dans les bureaux du département, peut-être dans la bibliothèque de la faculté. Et voilà que lire, si ce travail-là était sur la base de données lire, donc ça aurait donné l'accès à un public élargi. C'est ça l'objectif de lire. Donc tout le monde, quelqu'un qui est ailleurs, qui est aux États-Unis, parce que moi je suis au département d'anglais, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui veut produire un travail, il ne me lira pas. Peut-être que son travail peut avoir trait au mien. Il peut aller même sur Google comme ça, Nathalie n'apparaîtra pas. Donc ça sera impossible. Donc je suis, nos recherches, s'arrête.
C'est limité.
Limité de vraiment à, géographiquement, comme mon collègue a dit, c'est seulement là où vous êtes. Ça, des fois même, c'est à l'Emba seulement, ça ne peut même pas traverser, arriver à la Gombe.
Oui.
Oui, c'est
ça le problème.
C'est ça les
problèmes. On va accueillir un auditeur, Tagamile Agathe Jonathan, depuis Bounia, la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri. Jonathan Tagamile, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour aussi à l'été.
On vous écoute.
Bon, merci pour m'avoir associé à ce point de débat. C'est ma thématique qui parle dans le milieu universitaire, tout comme aussi partout. Bon, vous savez, les observes des statistiques, ça d'abord c'est important.
Vous sortez entrecoupé, est-ce que c'est possible de bouger un tout petit peu? Peut-être que ça peut... La qualité de la communication va s'améliorer.
Oui, comme je le disais, les statistiques servent comme étant les principes. Deuxièmement, le bilan. Vous savez.
En tout cas, désolé, on ne vous capte pas très bien. Benjamin va peut-être vous rappeler sur une autre ligne parce que là, on n'arrive pas à vous entendre correctement. Alors, Monsieur Yannick Tibassou, on dit que l'archivage numérique aide aussi à lutter contre le plagiat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, oui. C'est tout à fait ça. C'est ce que Mme Nathalie venait de dire tout à l'heure. C'est qu'avec LIRE, on peut déjà indexer, par exemple, un travail qui est d'un chercheur. Lorsque un autre étudiant, parce qu'il y a beaucoup de plagiat en République démocratique du Congo.
Ah, ça c'est...
Il y a un étudiant qui peut travailler un sujet à l'université de Kinshasa, et puis un autre vient, le même sujet, il part défendre.
Il enlève juste le nom.
Il part travailler dans une autre université et ça passe. Il n'y a personne qui peut faire le suivi, il n'y a personne qui saura que ce travail a déjà été défendu ailleurs. Donc maintenant avec LIRE, on va attraper tous ceux qui vont faire cela parce qu'avec LIRE, lorsqu'on vous archive un travail d'un étudiant ou d'un chercheur, on indexe le travail de cette personne-là. Lorsqu'une autre personne viendra avec ce même travail pour l'utiliser ou l'archiver dans LIRE, on va déjà savoir que non, ce travail a déjà été archivé ou l'auteur de ce travail, c'est telle personne. Même quand vous tapez sur Google, il y aura le nom de cette personne-là qui a déjà ce travail-là pour lui.
Même si vous avez changé de nom. Okay.
On va déjà savoir que ce travail, non, ce travail, tout ce qui contient dans ce travail, c'est pour une telle personne. Donc, de ce côté, c'est pourquoi LIRE est venu pour résoudre ces problèmes de piraterie et des droits d'auteur aussi, si on peut dire.
Quels sont les autres avantages de ces dépôts numériques, Madame Manyonga?
Ok, merci beaucoup. J'ai parlé de l'accès.
Un instant, on me fait signe que Tagamile est là. Bonjour Tagamile.
Oui, merci Serge, Jody, et merci aussi aux invités. Je vous salue tout ce qui est au studio.
Oui.
Merci, on vous écoute.
Donc, merci beaucoup. Comme nous parlons de l'importance des archives dans les milieux universitaires, mais aussi dans tous les autres milieux, vous savez, d'abord, j'ai présenté quelques importances des archives ou d'un archive. Vous savez, un archive sert comme un outil de statistique. Hein, les universités peuvent se servir des archives pour justement essayer de tirer une image sur la passation ou le passage de certains étudiants à terme de nombres. Vous voyez, ça permet effectivement aussi d'établir un certain bilan. Hein. L'université peut se dire bon, que de 2000, par exemple, à 2010, on a enregistré autant d'étudiants. De 2010 à 2020, on a d'étudiants. Ça peut aussi permettre à ceux qui comprennent si est-ce qu'il y a une déperdition scolaire ou soit il y a un nombre accru ou soit un accroissement des nombres alors qui viennent chez eux. Alors, c'est que les archives servent aussi comme une source de formation. Cela, c'est par rapport à ce que je viens bien de dire, mais aussi ça sert de ce qu'on appelle la banque des données. Vous savez, les scientifiques et les chercheurs peuvent recourir aux universités, justement, pour essayer de se ressourcer auprès d'elles concernant certains points ou certains sujets. Alors, c'est là où ils peuvent trouver. Alors, si une université, par exemple, n'a pas des archives, et ce serait alors une entrave à ces chercheurs de pouvoir se ressourcer, parce que les archives, comme je l'ai dit, constituent une banque des données. Alors, c'est très important, mais la question, c'est que comment est-ce que ces universités ou les autres institutions-là que les invités semblent soulever, les hôpitaux, ainsi de suite, les écoles, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer maintenant ces archives? Parce que c'est ça aussi le problème. Les problèmes numériques, c'est vrai, c'est bien, oui, mais au-delà de ça, il fallait peut-être avoir un autre moyen, et d'autres outils plus fiables et efficaces qui peuvent gérer les statistiques et même gérer toutes ces archives dans ce sens. Il y a des archives, par exemple, de 1900 quelques là-bas qui sont perdues, qui ont été perdues comme ça, justement parce que les numériques aussi posaient un peu des soucis dans ce sens. Merci beaucoup, je vous appelle depuis la vidéo.
Bien, merci Benjamin. Plutôt Tagam, il est Jonathan depuis Bounia. Madame Nathalie Manyonga, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
D'abord, merci beaucoup pour la question. Donc, sa question, je ne sais pas, il veut qu'on lui dise comment.
Cette application-là, de lire, est-ce qu'on peut développer d'autres outils, à part les numériques, c'est voilà. Est-ce qu'on peut développer d'autres outils?
Bon, il a parlé des 1900 quand les numériques posaient encore des problèmes, tout ça. Bon, je pense qu'il faut d'abord aussi que l'information puisse d'abord être connue, que l'information circule d'abord. Et puis, à part pour le moment, nous sommes à la révolution, pendant la révolution de la modernité. C'est le numérique qui est mieux placé pour un bon archivage. Donc c'est ça, c'est ce que je peux lui dire. Mais dire que, par exemple, il peut dire non, mais les gens qui n'ont pas accès à ces numériques-là, mais peut-être créer quand même peut-être des meilleures conditions d'archivage et puis les gens formés, avoir des spécialistes, parce que c'est pas tout le monde qui est formé dans ça. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît aussi l'importance de l'archivage. On commence à rencontrer aujourd'hui au marché, tu vois, un travail des fins de cycle ou bien de licence, des fins d'études. Une maman qui vend avec les cacahuètes. Parce que peut-être la personne n'est pas informée que après sa défense, ces documents-là pourraient servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme aussi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il faut aussi que l'information puisse passer. Comme on en parle comme ça, parce que même un enfant qui grandit, quand tu lui dis que tu vas faire les archives, il y a beaucoup qui ne peuvent pas conseiller aux enfants ça. Dire que non, va faire. Même quand on parle de d'archivage en ligne, quelqu'un doit être formé pour la meilleure conservation de cela. Donc, à part le numérique, moi, je pense que vraiment, c'est le on ne peut pas, pour le moment, c'est le numérique
c'est qui le
peut
numérique.
Répondre bien à la réponse. Parce que même si on a autant des bibliothèques, on pourra toujours, à un moment donné, chercher à les vider pour
remplacer. Parce qu'aujourd'hui, on a même des livres en ligne.
Voilà.
On a des ouvrages en ligne.
Donc, je pense que le numérique répond bien à la question d'archivage.
Monsieur Tibassou, qu'est-ce que vous pouvez dire à Tagamide?
Bon, s'il dit qu'il demande une solution à part le numérique, moi, je dirais peut-être qu'il faut former des gens spécialisés dans l'archivage pour bien gérer, parce qu'il manque vraiment un système structuré d'archivage. C'est ce que je peux lui dire.
Bien, nous parlons de l'importance des archives en milieu universitaire. Madame Manyonga, vous êtes en plus de la lutte contre le plagiat, vous étiez en train d'énumérer d'autres avantages.
Oui, je disais, à côté de cela, il y a vous êtes l'exposition à un public élargi. Il y a aussi l'interaction avec le monde extérieur. Lorsque votre travail est mis sur le numérique, vous avez la facilité d'interagir avec le monde tant national qu'international. Donc, vous êtes ouvert dans les mondes. Mais quand vous limitez seulement dans géographiquement, là où vous êtes, vous ne serez pas vraiment lu à l'extérieur. Donc, notre souci est que nous puissions développer aussi cette interaction-là avec le monde extérieur. Il y a des mémoires qui se défendent chaque jour ici, amenant des solutions louables, mais ça s'arrête là. Les jours de la défense, après les 15 minutes, les questions...
C'est fini, on va mettre ça à la bibliothèque.
À Longinaye, on oublie.
Oui.
Mais si, avant même, que la défense n'ait pas cité ce travail-là est mis sur en ligne, peut-être que ça peut aussi avoir veut aussi recueillir de remarques extérieures qui pourront vous aider à améliorer votre travail et faire mieux dans les futurs. Donc les avantages, il y en a légion. Je peux.
Voilà, les avantages, il y en a beaucoup. Quelqu'un a écrit, même les CV des chercheurs d'emploi finissent après un certain temps par se retrouver chez les vendeurs d'arachides.
Voilà.
ça se retrouve chez les vendeurs, c'est dommage. Voilà, tout ça parce qu'il y a trop de paperasse.
Oui,
il y a des
je
documents
ne sais pas vous dire combien,
des,
même les dossiers. Des dossiers là, moi j'ai eu à travailler au département là, donc il y a des fois des dossiers des étudiants qui viennent chercher des inscriptions. Je suis en train de louer aussi l'innovation de l'université aussi pour l'inscription en ligne, parce que chez nous tout s'est fait en ligne. Donc quand vous vous inscrivez, vous avez même un accusé de réception en ligne. Donc vous pouvez nous rappeler que nous, madame, il suffit que vous me donnez la date ou le nom, j'ai juste besoin d'indices pour vous
retrouver. Pour
retrouver
les.
Oui.
Voilà,
mais
les
là,
dossiers.
Quand vous arrivez, mais madame, j'avais déposé mon dossier il y a 2 semaines. Je dois vous dire, monsieur, ayez vos apaisements. Peut-être qu'on peut trouver, on peut chercher même pendant 2 semaines. Et enfin, on vous demande, je vous demande seulement d'amener un autre dossier. Hein. Vous voyez un peu. On perd aussi en heures, on perd aussi d'argent, hein, parce que venir avec tout ce que nous connaissons à Kinshasa, les troubles de transport, tout ça. Venir autant de tours pour juste retrouver son dossier, c'est compliqué. Je vous dis, le numérique résout les problèmes. Nous sommes encore très loin.
Mais quels sont les risques que présentent les numériques aujourd'hui, M. Tshibasso? Il peut y avoir piratage, c'est pas moi, il peut y avoir. Il y a des choses qui peuvent faire que toutes les données ont disparu.
Oui, il y a beaucoup de risques. Mais il y a aussi un moyen de sécuriser, de faire des backups et des. Il y a aussi des plateformes ou des logiciels pour contrecarrer les attaques contre le piratage. Oui. Mais ce que je peux ajouter aussi par rapport à l'importance des avantages de lire, c'est que, par exemple, pour un étudiant, ça lui permet de publier son travail. Déjà même dès les premiers cycles, l'étudiant peut déjà publier son travail et le gagner en visibilité internationale. À partir de là, il peut même gagner un emploi grâce à son travail qu'il a publié dès le premier cycle
de l'université. Ok, on va accueillir un autre auditeur, Jonathan Bantou, scolastique depuis la ville de Lubumbashi. Nous parlons de l'importance des archives en milieu universitaire. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 085 42 11 547.
Active pour la paix.
Bien, Jonathan Bantou, scolastique, vous êtes à Lubumbashi. Merci d'ouvrir votre micro. Bonjour. Allô, Jonathan, bonjour.
Oui, allô. Bonjour, jeudi.
On vous écoute.
Voilà, c'est une bonne thématique que je salue de loin, parce que ravivant la valeur que nous accordons aux archives, aussi bien numériques que papier, depuis que nous en avions connu l'importance. Alors, quant à ce, j'ai noté 2 questions à poser aux invités. La première est celle de savoir comment détecter un plagiat sans l'intervention de l'intelligence artificielle. Deuxième question, pendant combien d'années doit-on garder les archives papier pour aérer les bureaux et laisser place aux nouvelles archives, étant donné que celles-ci naissent à chaque heure qui passe? Voilà, je remets le micro. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Bantou. Madame Manyonga.
Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Merci pour ces 2 questions pertinentes. Hein. Donc, je vais commencer avec la deuxième. Pendant combien d'années? Moi, je pense que c'est chaque année qu'on doit vider, parce que avec chaque année qui passe, on crée une base de données pour cette année-là. Ça va vous aider à avoir une bonne aération dans votre institution. Parce que chaque, c'est qu'une année passe, elle ne s'efface pas, mais elle s'enregistre. Donc, je crois que garder tant de papiers après des années, je prends qu'une année suffise. Dès qu'on clôture l'année, on a déjà une base de données pour...
On peut déjà détruire cette paperasse-là.
Oui, on peut les, peut-être pas seulement détruire. On peut, comme on vous venait de parler aussi des avantages, comme on a dit qu'on peut... Il y a toujours moyen de contrecarrer, mais vraiment, les déplacer, laisser la place aux nouveaux documents qui vont passer. Mais je ne crois pas que nous, en tant qu'université en ligne, on ne pourra pas vraiment avoir beaucoup de papyrasses. Ça sera, tout sera vraiment... Et s'il veut vraiment en temps, pour moi, je pense que Yannick pourra me compléter. Pour moi, je pense que déjà, en une année, on peut le déclasser et puis créer une base de données pour ça. Et puis, la première question, vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît.
Comment détecter le plagiat sans recourir à l'IA? Est-ce possible aujourd'hui?
Il dit sans recourir à l'intelligence artificielle.
Artificielle, oui. Bon. Est-ce qu'on peut arriver à détecter un plagiat comme ça, quelqu'un qui a plagié un document sans recourir à l'IA? C'est difficile, hein?
Bon, ça, c'est difficile, mais pas impossible. C'est difficile, pas impossible. Bon, et par exemple, pour commencer, prenons d'abord les conditions traditionnelles dans lesquelles on conservait les documents. Quand même, le travail de fin de cycle ou bien de fin d'études, on a quand même des répertoires. On a quand même des répertoires des travaux déjà publiés, déjà dirigés ou bien déjà défendus. Quand un étudiant vient avec un nouveau travail qui va dans le même sens que l'ancien travail, on peut toujours le détecter parce qu'on va recourir d'abord au répertoire. Des documents déjà publiés, des travaux déjà défendus. Ça peut aussi nous aider à détecter que non, ça c'est un travail fait par le plagiarisme. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un logiciel propre pour détecter le plagiarisme qui n'est pas seulement dans l'intelligence artificielle. Il y a toujours une possibilité.
Il y a toujours possibilité de détecter sans recourir à l'IA. Oui. Monsieur Tchibasso.
Alors, moi, je pense que pour... il a dit, la deuxième question, c'était...
Bon, il dit pendant combien de temps il faut garder les papiers, tout ça, les documents, pour ne pas entasser, remplir le bureau, tout ça.
Bon, moi, je pense que c'est le niveau des priorités par rapport aux documents. C'est le niveau des priorités. Si vous pensez que ce document n'est plus important... Vous allez voir par rapport au niveau de priorité quels documents sont encore conservés et quels sont les documents qu'on ne peut plus garder parce que ça ne sert à plus rien de les garder ou l'information n'est plus importante. C'est par rapport à l'importance des informations qu'on stocke ou qu'on archive une information. Donc je pense que c'est le niveau de priorité, c'est à eux de voir comment quel est le niveau de priorité de l'information. Et pour la deuxième question, je pense que actuellement, surtout avec le contexte actuel en RDC, c'est vraiment compliqué de voir les piratages, surtout que toutes les universités à Kinshasa ne sont pas encore numérisées. Il y a toujours des archivages en papier passés par là. Donc, un travail fait à une université telle et le même travail fait à une université telle, on ne peut pas savoir que ce travail a été traité
dans une autre université.
C'est compliqué si ce n'est pas numérisé. C'est vraiment compliqué. Donc, je pense que c'est le numérique et les meilleurs moyens pour détecter ça.
Et maintenant, quels sont les préalables pour passer au numérique, pour un archivage numérique dans nos universités qui n'ont pas le niveau d'informatisation et encore faible, on dirait. Monsieur Tchibasso.
Il faut mettre les stratégies en place. Commencer d'abord par structurer l'organisation de l'archivage et mettre le numérique, en fait, de numériser les archivages. Je pense que c'est d'abord commencer d'abord à structurer d'abord le côté archivage.
Bien, Madame Manyonga, une autre question est de savoir lire ces dépôts numériques appelés lire. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Est-ce que qui peut aller archiver un document là-bas? Est-ce que c'est ouvert ou c'est seulement limité à l'université Muleka, Bernadette Muleka?
Oui, je pense en avoir aussi parlé au début là. Donc, lire pour le moment, il est limité seulement à l'université Bernadette Moulika, aux chercheurs, professeurs, étudiants de l'université Bernadette Moulika, pour jusqu'à maintenant. Donc, là, qui aura accès à lire que quelqu'un qui est dans l'université Bernadette Moulika. Et c'est selon il y a. Ce n'est pas à tous les documents que tout le monde aura accès. Donc, je pense qu'il y aura les documents administratifs, il y aura des gens qui peuvent avoir accès à ça, il y aura des documents académiques, il y a des documents estudiantins, tout ça. Donc,
et il faut créer un compte et puis on vous donne un accès, un mot de passe, c'est ça?
Oui, je pense que c'est ça. Donc, seul l'UBEM est concerné par lire.
Est-ce que plus tard, il y a l'idée de généraliser, d'ouvrir et lire aux autres chercheurs, M. Tshibasu?
Oui, l'idée c'est d'ouvrir, mais il faut être soit travailleur à l'UBM, ou soit professeur, ou soit partenaire de l'UBM. Là, vous pouvez avoir accès aux communautés de lire. Donc, on verra ça dans le futur. Mais je pense que pour avoir accès actuellement, c'est d'abord être soit étudiant, travailleur, ou soit... partenaire de l'Université Bernadette
Moulika. Bien, on va accueillir un autre d'autres auditeurs. Justin Kalabia, depuis la ville de Bounia, et Gentil Bassokwamba nous appelle de Kananga. Justin Kalabia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à mon ami Gentil de Kananga.
On vous écoute.
Merci, monsieur Jody, pour la thématique. Oui. Quand j'ai lu la thématique le matin, en tout cas, j'ai été très intéressé. Mais néanmoins, M. Jody, ce que nous continuons à regretter par rapport à l'argent RAM, parce que nos universités devraient être... on devrait installer des Wi-Fi pour que la numérisation dans toutes les universités, M. Jody, soit une monnaie courante. Nous sommes déjà au 21e siècle et nous sommes dans un monde hyperconnecté. Mais quand la question que je pose d'abord aux invités aujourd'hui, où sont partis l'argent RAM pour numériser nos universités à travers les pays? La deuxième question aujourd'hui.
Ah, ça c'est un problème là.
Vous voyez les archivistes, hein? Les archivistes dans toutes les universités aujourd'hui.
Oui.
Si vous partez à Kanyoka, vous partez par exemple à Sidi, vous partez au Tela même, vous partez par exemple à Massifi, vous partez soit au Tela même de nos frontières, là où il n'y a même pas la connexion. Mais il y a des mémoires, il y a des thèses, il y a des travaux de fin de cycle qui sont en train d'être même brûlés, mouillés et sans être surveillé, M. Jody. Mais la question que je pose, comment on peut parvenir à avoir tous ces documents-là qui sont en train d'être pourris, alors que nous sommes dans un État qui est surveillé, et malgré que la génération actuelle, M. Jody, ne se donne plus à lire les archives, mais on devrait numériser nos documents, en fait, que tout le monde soit capable de lire un document qui est sur Internet.
Bien, merci Justin Kalabia depuis Bounia. Gentil Bassokwamba depuis de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste de Kachama, bonjour aussi à tous les sujets de la radio Kapi, bonjour à monsieur. Je sais Kalabia, si c'est le bon moment. Merci beaucoup. Permettez-moi de prendre la parole pour partager avec vous mon point de vue sur une question que je ne peux pas négliger.
Est-ce que vous pouvez désactiver la main libre si c'est le cas?
Ah oui. Vous me suivez alors?
Oui, oui, là c'est bon.
Ok, permettez-moi de prendre la parole pour partager avec vous mon point de vue sur une question souvent négligée, mais pourtant essentielle dans le fonctionnement de nos universités. Oui. La gestion des archives. Les archives ne sont pas des simples papiers. que l'on empile dans un coin, il constitue la mémoire vivante de l'université. Chaque document produit, qu'il s'agisse des dossiers et d'étudiants, des procès-verbaux, des décisions administratives ou des résultats académiques, représente une trace, une preuve, une histoire. Sans archives bien conservées, une institution perd non seulement sa mémoire, mais aussi sa crédibilité. Comment prouver qu'un étudiant a été diplômé? Comment retracer le parcours d'un enseignant? Comment prendre de bonnes décisions sans informations fiables? Malheureusement, dans plusieurs de nos universités, la réalité est préoccupante. Les archives sont souvent conservées dans les mauvaises conditions, locaux, humides, sombres, exposés aux insectes et aux rongeurs. Les documents sont parfois jetés en désordre, sans classement, rendant les consultations difficiles, voire impossibles. À cela s'ajoute un autre problème, le manque de personnel qualifié et l'absence d'une politique claire de gestion des archives. Cette situation expose nos institutions à de nombreux risques, notamment la perte d'informations importantes, la fraude et la désorganisation administrative. Face à ces constats, il est urgent d'agir. Je pense qu'il faut tout d'abord améliorer les conditions de stockage des archives. Cela ne demande pas toujours de grands moyens, mais au moins un minimum d'organisation. Des locaux propres, aérés, sécurisés avec des étagères adaptées et une protection contre l'humidité. Ensuite, il est indispensable de mettre de l'ordre dans les documents classés, trier, identifier et organiser des archives selon les importances et leur durée de conservation doit devenir une priorité. Par ailleurs, la formation du personnel est essentielle. Nous devons disposer d'agents formés
archivage. Bon, on a compris, c'est bon.
On peut évoluer. Les documents et de garantir leur conservation.
Alors, quelle est la question?
Nous ne pouvons pas non plus négliger l'importance du numérique. La numérisation des archives représente une solution moderne et efficace pour sécuriser les documents et faciliter leur accès.
Merci beaucoup, gentil. Merci beaucoup pour tous ces rappels gentils. Parce que, Madame Manyonga, à vous la parole. Le premier intervenant a dit où est passé l'argent des RAM? L'argent était destiné à numériser tous les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, s'il y a la connexion Internet partout, je pense que toutes les universités peuvent mettre en place un système d'archivage numérique.
On n'est pas concerné par les RAM, nous sommes en train de nous battre pour amener les meilleurs aux Congolais, aux Africains. Donc, en tout cas, on ne connaît rien sur RAM, vraiment.
Oui. On ne connaît ça, pas. Ça ne vous concerne pas.
Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas vraiment.
Et puis, voilà, il y a Gentil qui nous a rappelé toutes les notions par comment les documents s'abîment, etc. Je pense que chaque établissement peut s'organiser pour avoir un archivage numérique. Et puis, ils sont revenus aussi sur le personnel. Il faut un personnel formé.
Voilà. Ça, c'est très important. On en a parlé. Il faut former, il faut avoir un personnel formé. Il y a des gens à nos jours aujourd'hui qui ne savent même pas utiliser l'ordinateur. Alors, pour gérer
même
aussi...
Même dans les universités.
Oui, pour gérer aussi une bibliothèque numérique, il faut savoir. Il n'y a pas longtemps, je pense, l'année écoulée, on était parti en Afrique du Sud pour suivre l'université Bernadette Moulay qui était représentée pour suivre une formation en archivage. Donc, on a, je pense, il y a deux ou trois semaines, qu'il y avait une équipe de IBM qui était aussi à Nairobi pour toujours dans des formations. Donc c'est pour dire que quand on n'est pas formé, c'est difficile aussi. On va commander instituer ça dans chaque université. Il faut que les personnels soient formés avant même qu'on puisse intégrer ce programme. Mais pour l'IBM, je pense que le personnel, il y a un personnel déjà formés pour l'utilisation de lire.
Oui. Monsieur Chibasso, est-ce qu'il faut c'est tout simplement être informaticien ou savoir utiliser l'Internet pour savoir archiver, ou ça demande, ça exige une formation spécifique?
Par rapport à lire ou par rapport à l'archivage tout simplement?
L'archivage et par rapport à lire aussi, oui.
Je pense que pour archiver, par exemple, sur Internet, je pense qu'il faut une formation, former les personnels, former les gens pour démontrer comment archiver, quelles sont les règles que ça demande, comment faire, classer les archives, comment classer les livres, comment classer des travaux, tout ça. Ça demande une formation. Donc moi, je peux dire que toute université qui se respecte doit au moins avoir une base de données d'archivage électronique.
Mmh. Ouais. Et un simple informaticien peut faire ça, ou il faut encore une autre formation?
Il faut former les gens. Même si tu es informaticien, tu dois être formé. Ce n'est pas tout informaticien qui est spécialiste en archivage. Mmh. Non, c'est une formation pour tout le monde, que tu sois informaticien ou pas. Dites-vous qu'en Afrique, c'est seulement 2% de la production de la recherche mondiale. L'Afrique donne seulement 2% sur 100% de la recherche mondiale. Tout ça parce que la recherche, tout ce que nous faisons comme recherche, n'est pas visible ailleurs. Ça reste ici, dans nos bureaux, dans les bibliothèques. On ne peut pas voir ça, on ne peut pas exploiter ça.
On ne peut pas exploiter ça.
C'est invisible. Alors, avec lire, on donne la possibilité à ce que notre recherche africaine ou congolaise puisse être visible ailleurs. On puisse voir qu'il y a un air de ça. Non, il y a des gens qui réfléchissent, qui trouvent des solutions, qui trouvent des choses. Donc, lire aussi permet à faire ça. Pas seulement archiver, mais à publier aussi et à rendre visible toutes nos recherches, tout ce que nos chercheurs font comme recherche.
Voilà. Nous parlons de l'archivage, l'importance de l'archivage en milieu universitaire. Voilà, on en parle avec Madame Nathalie Manyonga, doyenne de la faculté de gestion à l'université Bernadette Moleka, et Monsieur Yannick Chibasso, informaticien à l'UBM. Voilà, nous parlons des archivages. Une autre question est de savoir quels sont les préalables à mettre en place pour arriver à mettre en place un système d'archivage, Madame Manyonga. Il faut la connexion, il faut des ordinateurs, qu'est-ce qu'il faut voilà, les préalables.
Oui, je pense que les préalables, je peux dire, c'est comme vous les avez énumérés, mais avant tout, il y a d'abord une formation, et puis après la formation, il faut des outils. Il y a des outils qui nous permettent à détecter le plagiarisme, à indexer les documents, tout ça. Donc, c'est aussi important. Je pense que Yannick peut compléter quelque chose par rapport au préalable.
Oui, rapidement, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission.
Je pense qu'il faut une formation de personnel, avoir des matériels, des ordinateurs. C'est l'ensemble, c'est tout ensemble ce qui fait qu'on puisse avoir un système d'archivage complet.
Un mot de la fin, Madame Manyonga?
Ok, je pense que nous venons présenter aux étudiants de l'université Bernadette Moleka, une université en ligne vous permettant de suivre facilement vos enseignements à partir de chez vous. Et puis nous vous amenons aussi lire, qui nous permet aussi de bien conserver nos données, d'avoir une visibilité
au niveau international
et interagir aussi avec le monde entier.
Bien, merci Madame Nathalie Manyonga, doyenne de la faculté de gestion à l'UBM, l'université Bernadette Moleka, et merci à Monsieur Yannick Chibasso, informaticien. Excellente journée et à la prochaine. Merci. C'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.